Salut, c'est la mère au panier, nous sommes Marie et Clément. Chaque semaine, on vous parlera d'élevage, de bonne bouffe, de philosophie, de poésie. On passera des idées reçues à la moulinette, tout en s'égratignant au passage. Bref, on va vous mettre la mère au panier.
Let me take you on a little trip, my supersonic ship, at your disposal if you feel so inclined.
Salut à tous et bienvenue dans La Main au Panier. Cette semaine, on a eu l'envie de vous partager une lecture qui nous semble très juste et à méditer. Les piqûres de rappel ne font jamais de mal. Florence Robert est bergère dans les Corbières. Pour témoigner de la beauté et de la rudesse de ce métier, elle a écrit Bergère des Collines, publié aux éditions José Corti dans la collection Biophilia. Dans cette tribune, elle explique toute la complexité du métier d'éleveur et revient sur les difficultés de la profession à se faire entendre. Au moment où cette dernière est mise en cause face aux injonctions contradictoires du gouvernement et de l'opinion. Elle rappelle qu'il existe des alternatives à l'élevage industriel qui permettent de concilier une consommation de viande raisonnée, un élevage dans le respect du vivant et du consommateur. La transition écologique doit constituer l'opportunité de rebâtir le pacte de responsabilité qui lie éleveurs et animaux au sein de la société.
Les exhortations à arrêter de consommer de la viande sont nombreuses. Fondée principalement sur le poids de l'élevage dans les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur les conditions d'élevage et d'abattage désastreuses révélées par les associations de défense des animaux. Il règne un silence assourdissant quand il s'agit de présenter les pratiques d'élevage non industrielles. Voici donc un extrait de son plaidoyer.
Ce silence s'explique de différentes façons. Rappelons d'abord qu'il existe une diversité importante dans l'agriculture. Exploitation bio, paysanne, raisonnée, conventionnelle, traditionnelle, labellisée ou non, liée à leur terroir ou non, à taille humaine familiale, cette absence de critères lisibles et même de noms communs crée un no man's land où aucune prise de parole globale ne peut se faire au nom des élevages qui ne relèvent pas de l'agro-industrie.
Une autre raison tient à la difficulté qu'ont les agriculteurs à prendre la parole. L'intense quantité de travail en élevage ne saurait à elle seule l'expliquer. Leur quotidien, leurs pratiques, sont tissés de savoir-être et de savoir-faire bien difficiles à faire valoir à l'écrit comme à l'oral. C'est la raison pour laquelle de nombreux agriculteurs invitent les consommateurs à venir visiter leurs fermes et à les voir travailler avec leurs animaux, pour leur faire toucher du doigt les dimensions physiques, concrètes, mais aussi immatérielles de ce métier. Et puis, entre agribashing, sentiment de déconsidération et mise à jour de pratiques révoltantes dans les abattoirs, les éleveurs sont toujours plus stigmatisés et mal à l'aise. Ce ne sont pas des conditions propices à une prise de parole sereine. La communication des syndicats sur le sujet n'est guère plus claire. Leurs actions se veulent surtout percutantes et défensives. On doit cependant souligner ici le travail de fond mené par la Confédération paysanne sur le sujet, qui réclame haut et fort une agriculture tournée vers un plus grand respect des animaux et du vivant, en promouvant par exemple les abattoirs mobiles et les labels bio, Nature et Progrès, Déméter, qui est le label de la biodynamie.
D'autre part, le terrain est glissant, car en décidant de communiquer avec précision et sincérité sur les conditions d'élevage et d'abattage, on risquerait d'ouvrir plus largement la boîte de Pandore. D'abord parce qu'on évoque l'abattage lui-même, donc le droit de mort et la mort elle-même, sujet tabou s'il en est. Ensuite, parce qu'en soulevant la question des conditions d'élevage dans l'agro-industrie, on appuie sur un des points de fracture qui cisaille le monde agricole. La guerre est ouverte entre les uns et les autres à propos du fondement même de ce qui nous occupe, le rapport au vivant. Enfin, parce qu'en reconnaissant l'animal capable de sentience, c'est-à-dire de ressentir douleur et émotion, on est amené à interroger d'autres domaines où les animaux sont tués. La chasse, la prédation par les grands carnivores, l'abattage de ceux-ci, l'élevage des animaux pour leur fourrure, la vivisection ou encore la corrida. À chacun d'entre eux, un corpus d'enjeux économiques et d'acteurs très organisés peut à même de remettre en cause leurs pratiques et peut empresser de voir le citoyen lambda s'emparer de ces sujets.
But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The
Sans chercher à justifier le principe de l'élevage, mon ambition est d'exposer ce qu'auraient en commun les éleveurs non industriels. Un lien fort au territoire, avec une part importante de pâturage qui façonne le paysage et qui favorise la biodiversité, dans certaines conditions bien définies, et avec une alimentation animale produite localement et non transformée. Le pastoralisme est à ce titre le mode d'élevage le plus résilient. Un lien fort aux animaux, il est très difficile de travailler en force avec les animaux, dès lors qu'ils ont accès au pâturage, qu'ils sont traits ou gardés par un berger. Au contraire, une relation de confiance se crée, basée sur l'attention réciproque, l'écoute et la disponibilité. Nous avons tous pleuré au moins une fois de dépit et de tristesse pour une bête morte sans raison incompréhensible, que nous avons découverte au matin impuissant. Nous avons tous un attachement viscéral à notre troupe, fait d'individus que nous connaissons.
Un véritable pacte avec le vivant. Nous organisons leur quotidien, leur environnement, nous ne pensons qu'à elles. Là où les antispécistes ne voient qu'une forme d'esclavage, nous mettons en œuvre savoir-faire, patience et détermination. Là où on nous accuse de faire profit de la mort, nous faisons d'abord profit de la vie. Nous lui offrons le meilleur. Ce contrat avec la vie, profondément intégré, contient l'idée de mort. Elle fait partie de notre quotidien, tout autant que la bonne santé et la maladie. L'acte d'euthanasie à la naissance. Rien n'est moins symbolique, rien n'est plus direct que de fouiller une brebis, d'y trouver un agneau, parfois sans savoir s'il est mort ou vivant, et de tout faire pour le sortir, en espérant sauver la mère et l'agneau. Cette frontalité est intégrée parfaitement. À l'heure où il est question de réinventer de nouveaux modèles, les éleveurs vivent, travaillent avec celui que propose la nature, qui de façon immémoriale fête les vivants et inclut la mort et la consommation même de la mort. Selon l'expression d'un ami berger, les agneaux sont les fruits tombés de l'arbre que nous soignons et faisons grandir. Nos compétences sont nombreuses et nous accumulons les heures et les soucis au profit de la santé et du bien-être des animaux. Si certains éleveurs ne sont pas ceux-là, beaucoup se reconnaîtront dans ce portrait. Les animaux enfermés dans des loges où ils ne peuvent pas se retourner nous horrifient. La violence lors des abattages des animaux nous révulse. Notre sensibilité est autre cependant. Là où collectivement on préfère ne pas trop savoir, ou au contraire on refuse tout en bloc, nous assumons la frontalité exigée par la transformation de l'animal vivant en viande bonne à consommer.
À l'heure d'une conscience de plus en plus avertie, des problèmes environnementaux et de la cause animale, la consommation de viande nous pose trois questions majeures. A-t-on le droit de tuer les animaux ? A-t-on le droit de faire souffrir les animaux ? A-t-on le droit d'ignorer la pollution qu'engendre sa production ? Les éleveurs restent étrangement silencieux et peinent à répondre. J'affirme que dans la plupart des exploitations, ces derniers ont conclu un pacte de responsabilité avec le vivant, qui inclut la question de la mort. Cette conception associe la sensibilité, le fait de prendre soin à la question de l'abattage. S'ils répondent donc oui à la première question, ils répondent non à la deuxième question très fermement. Leur pratique par des logiques intrinsèques à leur taille modeste minimise leur impact environnemental, notamment en incluant le pâturage au maximum, et ce, d'autant plus qu'elles sont bio et plus.
Ce métier qui recouvre toutes les dimensions du vivant, du plus symbolique au plus charnel, devrait être parmi les plus beaux du monde. Produire une nourriture goûteuse et pourvoyeuse de bonne santé, issue d'animaux élevés et abattus dans les meilleures conditions et respectueuse de l'environnement. Formulé et exercé ainsi, il répond à une notion fondamentale, grande oubliée de notre société et qui intègre la dimension de la mort. La vitalité. Il reste au consommateur à faire l'effort de choisir sa viande avec soin, à en manger peu et en la dégustant, parce qu'elle est dans tout un système résilient, un produit d'exception. On espère que ça vous a plu.
Bisous les lapins.
I wish I was.